Il y a donc des virus, puisque c'était le sujet, ça sera un sujet, c'est un sujet très très vaste, donc on va essayer de survoler. Je pense qu'il n'y a pas que des scientifiques ici, que vous ne connaissez pas forcément très bien le fonctionnement d'un virus. On va en parler, mais en étant très schématique et très basique, parce que c'est très très compliqué les virus. Et puis je vais vous donner un tas d'exemples de virus que vous connaissez, et puis bien évidemment certains que vous n'avez, que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler. Juste pour vous rappeler qu'il y a un certain nombre de micro-organismes qui existent dans la nature, que vous connaissez tous par leur nom. Il y a certes des virus dont on va parler, mais il y a également des bactéries, comme ici vous voyez c'est une bactérie qui s'appelle un pneumocoque. Les bactéries sont des cellules, je ne sais pas si vous avez étudié ça, qui ne possèdent pas réellement de noyau à l'intérieur de ces cellules, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux de génome, qui est toujours de l'ADN pour ceux qui connaissent, qui n'est pas entouré dans un noyau. Vous avez des parasites. Des gentils parasites comme ici, qui sont des vers, généralement, que l'on peut retrouver dans le tube digestif, qui nécessitent la présence d'un corps humain, animal, ou voire végétal, pour pouvoir se développer. Et en l'absence de ce corps humain, les parasites ne peuvent pas se développer. Hein, il y a des tas de parasites que vous connaissez, comme par exemple la toxoplasmose. Il y a à peu près 90% des gens en France qui ont rencontré ce parasite. S'il n'y a pas d'homme, s'il n'y a pas d'animal, s'il n'y a pas de chat ou de bœuf, il n'y a pas de toxoplasmose. Ça, c'est un petit ver qui s'appelle un ascaris. Et enfin, le troisième ou quatrième micro-organisme que vous connaissez également, ce sont les champignons, responsables d'un certain nombre de pathologies chez l'homme, notamment des candidoses, que ce soit au niveau génital pour les dames, c'est assez fréquent, lié à de nombreux facteurs, mais également des candidoses dans la bouche, par exemple, lorsque vous prenez des antibiotiques. Tous ces micro-organismes sont présents naturellement, en dehors bien évidemment peut-être des parasites, dans l'organisme. Pour vous donner juste une petite idée, notre organisme est fait d'un certain nombre de cellules. Il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules qui forment votre organisme dans votre tube digestif. Et heureusement que ces bactéries sont là pour pouvoir digérer les aliments, les transformer et vous apporter un certain nombre de nutriments. Cela en est de même pour les champignons. On a tous des champignons dans le tube digestif, c'est normal. Et sur la peau, vous avez 10 fois moins de cellules, de bactéries que de cellules qui forment votre organisme. Ça fait quand même quelques milliards de bactéries que nous portons. En ce qui concerne les virus, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ce sont des micro-organismes un tout petit peu particuliers qui ne peuvent survivre qu'en parasitant forcément la cellule d'un homme, d'un animal ou d'une plante. S'il n'y a pas une cellule, le virus ne peut pas se reproduire, ne peut pas se multiplier. C'est une espèce de machinerie qui est généralement entourée de, je vais vous donner des exemples, d'une coque ou d'une enveloppe, avec du matériel génétique, mais qui n'arrive pas à se reproduire tout seul. La bactérie, si vous lui donnez de l'eau, du sel, du sucre, des protéines, etc., elle va se reproduire. Le virus a forcément besoin de cellules humaines, on va parler essentiellement des virus humains aujourd'hui, bien évidemment, pour se reproduire. C'est pour certains chercheurs, les virus sont des éléments qui ne sont pas vivants. Alors c'est une discussion philosophique qui est assez difficile à trancher, mais encore une fois, sans cellules, il n'y a pas de reproduction de ces virus. Les virus, vous les connaissez, il y en a des centaines et des centaines qui infectent l'homme, et je vous donnerai des exemples après. Comme je vous l'ai dit, donc les virus sont des éléments qui ne peuvent pas se reproduire sans cellules humaines. Je parle des virus humains, ça, on dit, ce sont des éléments acariotes. Je ne sais pas si on vous a expliqué ce qu'est un élément acariote par rapport à un eucaryote et un prokaryote. Les eucaryotes, ce sont les éléments qui ont leur propre noyau entourant leur matériel génétique. Les prokaryotes n'ont pas de noyau comme les bactéries, par exemple. Les acariotes, ce sont vraiment des éléments qui ne vivent pas en dehors des cellules. Ce sont des éléments qui sont tout petits, c'est toujours plus petit quasiment que toutes les bactéries. On a découvert il y a une dizaine d'années un mimivirus, découvert justement à Marseille, qui fait à peu près 400 nanomètres. C'est un virus qui est un tout petit peu plus gros qu'une bactérie, mais c'est vraiment le seul exemple que l'on connaisse. Et ces virus, comme je vous l'ai dit, pour survivre, doivent affecter forcément soit un homme, soit des animaux, soit des plantes, soit des insectes. Et je vais vous donner des tas d'exemples tout à l'heure pour vous démontrer que sans ces animaux, sans ces hommes, les virus n'existeraient pas. Contre les virus, on n'a pas de traitement. grosso modo. Les seuls traitements que l'on possède concernent essentiellement les virus des hépatites B ou C, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Pour le VIH, je vous en toucherai deux mots tout à l'heure. On a des thérapeutiques aujourd'hui qui marchent relativement bien, même très bien, puisqu'elles permettent aux sujets infectés de vivre normalement aujourd'hui. Mais en gros, on n'a pas de traitement pour les virus, contrairement aux bactéries, pour lesquelles vous avez des antibiotiques qui marchent très bien, le plus souvent, et qui permettent de vous guérir. Lorsque vous êtes infecté par un virus, c'est votre organisme qui va lutter pour se débarrasser naturellement de ce virus. Sauf si, bien évidemment, vous avez été vacciné. On a des tas de vaccins aujourd'hui pour lutter contre les virus. Vous avez tous été vaccinés ici contre, par exemple, la rougeole, les oreillons et la rubéole, c'est obligatoire. La grippe, je vous encourage vivement à vous faire vacciner chaque année, on en parlera tout à l'heure. La polio, c'est un virus aussi. Vous avez été vacciné à la naissance, puis à 11 ans, puis un peu plus tard. C'est une vaccination obligatoire et ça a permis d'éradiquer complètement la poliomyélite en France grâce à la vaccination. Je ne vais pas vous parler du HPV. Le HPV, je vous encourage vivement, mademoiselle, à vous faire vacciner. Vous savez qu'on parle les papillomavirus sont des virus qui peuvent de temps en temps engendrer des cancers au niveau du col utérin. Donc il y a une campagne de vaccination depuis 3-4 ans. Il a été largement prouvé que les vaccins contre le HPV marchaient très bien. Je vous encourage à vous faire vacciner dès l'âge de 14 ans et avant toute relation sexuelle pour, en cas de transmission d'un virus de façon sexuelle, ne pas avoir un cancer ultérieurement. Ça marche très bien. Et puis je terminerai tout à l'heure le topo en parlant d'un virus qui n'existe plus à la surface de la Terre, qui s'appelle la variole. Vous avez sûrement entendu parler de ce virus. C'est le seul virus, c'est le seul agent infectieux dont on s'est débarrassé dans les années 70 grâce à la vaccination réalisée de façon conjointe dans plein de pays à la surface de la Terre. Il n'y a pas d'autre agent infectieux pour lequel qui a été éradiqué pour l'instant par l'homme. On espère la polio en 2005, on en est loin et ça n'a pas encore marché. Juste, les virus, comme je l'ai dit, il y en a des centaines et des centaines qui peuvent affecter des tas d'animaux, plantes, etc. Là, c'est la taxonomie, c'est-à-dire la classification de ces différents virus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a différents virus qui sont soit ADN, soit ARN. Je pense que vous avez vu ça en cours. Il y a des modes de réplication viraux qui sont un petit peu particuliers d'un virus à l'autre. Un virus particulièrement en dehors des autres, ce sont les rétrovirus, c'est-à-dire des virus du HIV et HTLV1, HTLV1-2 et HIV1-2. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, c'est surtout pour le HIV, donc ce virus qui donne le sida. Vous voyez qu'on a des tas de virus, ce sont les familles des virus, et à l'intérieur de chaque famille, bien évidemment, vous avez une déclinaison de 15, 20, 30 virus différents qui peuvent engendrer des pathologies chez l'homme avec une gravité plus ou moins importante, hein, bien évidemment. Des exemples, juste pour vous montrer la tête d'un virus, vous avez des tonnes de virus de formes et de tailles différentes, bien évidemment. Là, je vous ai mis deux virus, hein, qui a une enveloppe qui est ici, en bas, qui entoure l'ensemble du matériel génétique du virus, qui permet, lorsque cette enveloppe est présente, avec des espèces de spicules à la surface, qu'on appelle des glycoprotéines, qui sont des espèces de clés, qui permettent au virus de se fixer sur les cellules humaines, de rentrer ses clés dans des serrures, ça s'appelle des récepteurs, ces différentes cellules, et de pénétrer à l'intérieur de la cellule pour pouvoir utiliser la machinerie cellulaire pour pouvoir se répliquer. Puis il y en a d'autres ici, par exemple, qui n'ont pas de membrane, avec au centre, vous voyez, tout ce matériel génétique, qui soit de l'ADN, double brin ou de l'ARN, quel que soit le type d'ARN. Je vous donne maintenant plein d'exemples de pathologies virales, essentiellement axées sur l'homme. Une pathologie qui est en recrudescence depuis 2 à 3 ans, c'est la rougeole. Alors, vous avez tous à peu près entre 15 et 20 ans, si je ne dis de bêtises. Donc vous avez tous été vaccinés forcément à la naissance et à 11 ans, donc vous êtes protégés contre ce virus. Mais malheureusement, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas été vaccinées. Ce sont les personnes qui ont plus de 35 ans. Hein, la vaccination date des débuts des années 80. Des personnes qui n'ont pas eu la rougeole dans leur jeunesse, qui aujourd'hui se contaminent. Et on a droit à une épidémie actuellement en France de rougeole. Depuis 2 ans, on a à peu près une vingtaine de milliers de cas l'année dernière en France. Chez des sujets qui sont généralement plus âgés que vous, hein, au-delà de 30-35 ans, avec des cas relativement sévères de rougeole. On en voit fréquemment, surtout pendant la période de mars à septembre, avec un risque d'atteinte à la fois respiratoire, mais aussi neurologique. Là, vous voyez, c'est un petit garçon, une petite fille, je ne sais pas, qui fait la rougeole. C'est typique, hein, c'est une contamination, comme beaucoup de virus, vous avez une contamination aérosolisée, donc par voie orale. Vous crachez du virus, elle est contaminée autrui, et le virus se multiplie au niveau de votre organisme, et quelques jours plus tard, après une période d'incubation, c'est-à-dire la période silencieuse qui vous sépare du moment où vous avez rencontré un agent infectieux et les premiers signes cliniques, vous allez avoir ces lésions sur la peau. Dans un premier temps, vous toussez, vous crachez, donc vous contaminez les petits copains, et puis vous allez avoir ces lésions sur la peau qui commencent généralement au niveau des oreilles et du front, et qui va descendre gentiment jusqu'au niveau des pieds, avec la peau qui va finement desquamer, disparaître au bout de quelques jours. Avec un signe particulier qu'on ne voit pas très bien ici, ça s'appelle le signe de Koplik, ces petites taches blanchâtres à l'intérieur de la joue. C'est, en médecine, on n'a pas beaucoup de signes comme ça. Ça s'appelle un signe pathognomonique, c'est-à-dire un signe qui est spécifique d'une maladie. Hein, c'est attribué uniquement à une seule et une seule maladie. Donc là, on ne voit pas très bien, vous avez des petites taches blanchâtres ici, à l'intérieur de la joue. Donc vous ne risquez rien, mais vos parents, s'ils ne sont pas vaccinés, risquent éventuellement d'attraper la rougeole, s'ils n'ont pas fait bien évidemment la rougeole dans leur enfance. Donc une maladie qui a été éradiquée pendant un certain nombre d'années, qui revient et qui est à nouveau à la mode, et qui remplit certains services de réanimation. Il y a une grande famille de virus que vous connaissez bien, c'est la famille des herpès viridés, où il y a 8 virus, avec un certain nombre de virus que vous connaissez bien dans cette famille, notamment les herpès. L'herpès virus, il y en a deux, le 1 et le 2, qui donnent ce qu'on appelle des boutons de fièvre au niveau des lèvres ou au niveau génital. Ce sont des lésions qui sont fréquemment retrouvées dans la population. Plus de 95% de la population en France a rencontré ce type de virus. Le plus souvent, c'est bien évidemment au niveau des lèvres. Je pense que vous avez déjà vu des amis ou de la famille qui avaient ce type de lésion. On peut attraper ça très jeune, hein, c'est pas le bisou du papa ou de la maman à son enfant en étant contaminé, en transmettant ce virus, c'est assez fréquent. Donc ça fait partie de cette famille des herpès viridés. Toujours dans la même famille, il y a un autre virus que vous connaissez très bien, dont je ne vous ai pas mis de diapositive, qui est le virus qu'appelle le Epstein-Barr virus, c'est le virus de la mononucléose infectieuse, qui est également une maladie qui est très très fréquemment retrouvée chez l'adolescent, c'est la maladie du baiser. Où vous avez une transmission par contact un peu plus étroit cette fois-ci d'un virus qui fait partie de la même famille que les herpès, avec une fatigue très importante pendant plusieurs semaines et de la fièvre et certaines particularités cliniques que certains peuvent connaître ici. Dans la même famille des herpès, vous avez le virus de la varicelle. Le virus de la varicelle, c'est un virus qui est excessivement contagieux. Beaucoup parmi nous ont eu la varicelle, surtout dans ces fêtes scolaires ou ces fêtes de goûter d'anniversaire, où il y en a toujours un qui, à la fin de la fête, commence à présenter les premiers boutons de varicelle alors que tous les copains sont partis. À coup sûr, tous les copains auront la varicelle 14 jours après. C'est une maladie qui donne des boutons sur la peau, comme vous pouvez le voir, mais dont le mode de contamination est également oral. Donc lorsque vous faites la varicelle, vous crachez du virus sur vos petits copains, sans le faire exprès. Hein, quand je vous parle, là, pour vous donner un exemple, je vous postillonne forcément, sans postillonner personnellement, mais on envoie des gouttelettes à 7 mètres. Si je postillonnais en parlant, je vous enverrais des gouttelettes à 12 mètres. Et donc, il y a de quoi contaminer facilement les gens. Alors, peut-être pas avec le virus de la varicelle, enfin, un contact un peu plus étroit, mais vous voyez qu'on peut facilement contaminer une pièce comme ici si on avait certains virus. J'en ai un dans le nez, mais j'espère que je ne contaminerai pas aujourd'hui. Ce virus de la varicelle, une fois que vous l'avez attrapé, vous en êtes guéri de façon définitive. Hein, votre immunité, votre organisme va lutter contre ce virus, et ce virus va aller s'endormir dans votre organisme. Et de temps en temps, il peut se réveiller quelques années plus tard ou quelques mois plus tard et donner naissance à ce qu'on appelle le zona, qui n'est ni plus ni moins le même virus qui est responsable de la varicelle. Hein, c'est, alors vous faites du zona, pourquoi faites un zona? Parce qu'il y a différents facteurs qui peuvent intervenir, vous êtes fatigué, vous avez une maladie, vous avez de la chimiothérapie, vous avez un sida, tout ça favorisant l'éclosion, ça c'est un patient qui a le sida, favorisant l'éclosion de ce virus qui va se réactiver, qui va longer les fibres neurologiques sensitives pour gagner la peau, pour redonner ce type de petites lésions perlées avec des vésicules excessivement douloureuses. Vous allez en guérir, mais bien évidemment, vous pouvez à tout moment refaire des zonas. On fait généralement qu'une varicelle dans sa vie. Il y a quelques cas exceptionnels, mais on ne va pas en parler. Par contre, un zona, vous pouvez en faire plusieurs. Et c'est encore une fois une maladie très douloureuse. Maladie qu'on peut observer, y compris chez les enfants, mais aussi chez les personnes âgées. Hein. On va changer de sujet, je vais vous parler un peu de la grippe, parce que c'est toujours un sujet d'actualité, on en parle beaucoup depuis un certain nombre d'années, on a encore reparlé la semaine dernière avec le H5N1 en Hollande, avec ce virus qui a été entièrement et génétiquement modifié pour avoir un virus humanisé, et je crois que c'est important d'en parler pour bien comprendre les choses. En termes de définition, on parle de grippe, mais c'est toujours mal compris en gros par le public et par les journalistes qui mélangent un peu tout. Vous avez trois types de grippe. Il y a ce qu'on appelle la grippe saisonnière. Alors déjà ici, je vous ai mis le virus. Le virus de la grippe, c'est un virus avec une enveloppe, comme vous pouvez le voir, avec des glycoprotéines autour et fixées sur cette enveloppe qui lui permettent pour certaines à la fois de rentrer dans la cellule, d'infecter la cellule. Également, il y a d'autres glycoprotéines qui lui permettent, les hémagglutinines, de sortir de la cellule. Donc vous avez à la fois une clé pour rentrer dans la cellule et à la fois une clé pour en sortir. C'est comme ça que ça marche, c'est un virus assez sympathique qui trouve ses récepteurs le plus souvent au niveau des voies aériennes supérieures, au niveau des poumons, et qui est responsable de la symptomatologie dont on va parler. Donc, vous avez trois types de virus. Il y a le virus que vous connaissez très bien, qui sont les virus de la grippe saisonnière. La grippe saisonnière, c'est la grippe dont on parle chaque année. Ça coûte très cher à l'économie mondiale, puisqu'il y a énormément de gens qui attrapent cette grippe chaque année. En France, de l'ordre de quelques centaines de milliers à plusieurs millions de personnes ont la grippe chaque année. Il y a des arrêts de travail, l'économie s'arrête, ça coûte très cher, vous allez voir votre médecin. Les traitements, il n'y a pas de traitement réellement efficace pour ce type de grippe saisonnière, en tout cas prescrit au quotidien. Voilà, ce sont des virus qui sont bien connus, pour lesquels il existe un vaccin. Chaque année, on vous propose, et je vous encourage même vous, à 15-20 ans, de vous faire vacciner contre la grippe. Les enseignants, il est hors de question qu'ils ne soient pas vaccinés, parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter, ils sont là pour vous enseigner, je vous rappelle. Et puis, ça ne sert à rien, il faut penser à soi, mais il faut penser aux autres. Quand on a la grippe, on va contaminer les autres. Donc, en se vaccinant, vous évitez de contaminer autrui, c'est important. Chaque année, vous avez ces virus de la grippe qui circulent à la surface de la Terre, qui sont responsables donc de ces petites épidémies saisonnières, avec trois types de virus qui circulent à la surface de la Terre et qui chaque année vont se modifier très légèrement, ce qui nous oblige à changer la vaccination chaque année. Pourquoi est-ce qu'on vous vaccine chaque année? Parce que les virus se modifient un petit peu, que vous avez une perte de l'immunité vis-à-vis de ce vaccin au bout de 11-12 mois. Dire que la grippe, ce n'est rien, c'est tout à fait faux, puisqu'en France, chaque année, il y a entre 4 à 6 000 décès de la grippe. Alors généralement, on ne s'en aperçoit pas, puisque c'est une maladie qui n'est absolument pas à déclaration obligatoire. Donc on note simplement qu'il y a des surmortalités au moment des épidémies de grippe, qui touchent généralement, certes, des sujets un peu plus âgés, mais je peux vous assurer que toute personne qui a une pathologie chronique sous-jacente est à risque de mortalité pour la grippe. La grossesse, par exemple, est un facteur de surmortalité lorsque vous attrapez la grippe. Donc il faut vacciner également les femmes enceintes. C'est une notion anciennement connue aux États-Unis depuis des décennies, qui a été introduite en France finalement il y a 2-3 ans, c'est un peu tard. Donc ça, c'est la grippe saisonnière. Je vais vous donner des exemples après. C'est celle que vous connaissez. Puis généralement, on s'arrête là. Et après, tout le monde mélange tout. Il y a un deuxième type de grippe, c'est la grippe aviaire. Aviaire, ça vient d'avium, ça veut dire l'oiseau. Ce sont des virus qui, normalement, n'atteignent, ne touchent, ne donnent des signes cliniques que chez des animaux. à 99%, il s'agit d'oiseaux, de poulets, de canards, etc. Mais de temps en temps, il y a eu des cas rapportés chez des tigres, des baleines, etc., des phoques. C'est un peu plus rare. Donc cette grippe aviaire dont on vous a beaucoup parlé à partir de 2003, jusqu'à preuve du contraire, n'a qu'une répercussion économique à la surface de la Terre. Hein, quand vous arrivez, vous avez un poulailler de quelques millions de poulets qui se fait infecter et vous perdez vos millions de poulets d'un coup, ça coûte très cher à la personne qui élève ces oiseaux. Et jusqu'à preuve du contraire, mais on va voir qu'il y a un contre-exemple, bien évidemment, ce sont des virus qui ne se transmettent pas de l'animal à l'homme, sauf dans certains cas. Et c'est un cas qui peut être dramatique, je vais en parler après. Enfin, il y a le troisième type de grippe, c'est la pandémie de grippe A. C'est celle dont on vous a rabâché les oreilles en 2009. On attend ces pandémies, ce sont des espèces d'épidémies à la surface de la Terre avec des nouveaux virus que l'homme n'a jamais rencontrés. Donc si vous avez un nouveau virus, et ça c'est valable pour tout virus, pour lequel vous n'avez aucune immunité qui vous infecte, le risque de mortalité d'infection par rapport à l'infection est très important. On a eu des tas de pandémies au siècle dernier, il y en a eu 4, dont 3 majeures, dont la première a été celle de la pandémie de grippe espagnole en 1918-1919, qui a beaucoup plus tué de sujets par la grippe que de sujets au combat pendant la Première Guerre mondiale. Il y a eu en gros entre 30 à 50 millions de décès liés à ce virus de la grippe. Il s'agissait d'un virus qui, aujourd'hui, est devenu tout à fait banal et qui donne les grippes saisonnières, qui était du H1N1, qui à l'époque était un nouveau virus qui arrivait à la surface de la Terre et que tout le monde s'est contaminé. On sortait de la guerre, il y avait une période de promiscuité, des problèmes sociaux très importants à la surface de la Terre, et donc surtout les femmes se sont fait infecter, les enfants aussi, les maris étant dans la guerre. Je vais vous en parler. Et donc, il y a 2 ans, on avait très très peur une nouvelle pandémie. On vous a parlé d'un nouveau virus qui s'appelait le H1N1, qui est différent de celui qui circule chaque année. Et on a très peur qu'il y ait des centaines de milliers de morts à la surface de la Terre. Et ça n'a pas été le cas, parce que par chance, on a eu droit à la naissance d'un nouveau virus, qui est un gentil virus. Je vais vous en parler également après. Donc, 3 types de virus. La grippe saisonnière, donc juste pour vous rappeler que ça se transmet à la fois par aérosolisation, par les gouttelettes de la salive, mais également par les mains. Je veux dire, quand vous éternuez, pour n'importe quel virus respiratoire, je vous encourage à éternuer ou à tousser dans des mouchoirs en papier, ou à tousser et éternuer, comme au Japon, au niveau du pli du coude. Les personnes qui vivent en Asie du Sud-Est n'éternuent jamais dans leurs mains, parce qu'après ils ont plein de virus, on vous serre la main, on vous refile les virus sur la main, et puis vous, il suffit de vous gratter un petit peu le nez, de respirer comme ça, et vous contaminez. Vous pouvez très bien également, je peux très bien, si j'avais la grippe, en mettre un petit peu sur ce micro et contaminer la personne qui viendra après moi, elle pourrait se contaminer comme ça. Donc toujours bien se moucher, avoir des mouchoirs en papier, et surtout bien se laver les mains. La grippe, oui, c'est peut-être pas une maladie grave, juste à 6000 décès par an, ça fait beaucoup plus que la circulation. Lorsque vous l'avez, vous avez quand même 2 à 3 personnes que vous allez infecter forcément. Donc ça explique l'amplification de ces épidémies lorsqu'il y a une petite épidémie, sachant que 30% des patients qui ont la grippe vont cracher du virus, vont éternuer sans avoir aucun signe clinique de la grippe. Les signes cliniques que vous connaissez très bien, c'est j'ai un peu de fièvre, je tousse, j'ai mal dans les muscles, les articulations, je suis pas bien, j'ai le nez qui coule, etc. Ça dure 2-3 jours, vous n'êtes pas bien. Et ça, ce sont les signes de la grippe. Alors il y a des tas de virus qui donnent les mêmes signes. On parle de syndrome pseudo-grippeux. Là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de virus de la grippe encore en France. Il y a des tas de rhinovirus qui vous donnent une atteinte nasale comme je peux avoir. On a l'impression d'avoir la grippe, mais ce n'est pas la grippe. Mais ça y ressemble. Mais de quoi contaminer quand même tout le monde. Juste pour vous donner des exemples, la grippe, les petites épidémies de grippe chaque année, vous voyez, c'est... Alors je me suis arrêté en 2006, mais c'était 1,6 million, ça va jusqu'à 4 500 000 personnes officiellement infectées chaque année. Ce sont bien sûr des extrapolations, on note ça uniquement avec le nombre de consultations, l'excès de consultations que l'on peut observer en médecine générale en ville, qui permet d'apprécier. Donc la grippe, c'est une histoire... très importante et encore une fois avec un certain nombre de décès, donc ce n'est pas une maladie bénigne. On ne peut pas entendre ça. Le deuxième type de grippe dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la grippe aviaire, qui donc atteint essentiellement les animaux. On ne va pas rentrer sur la symptomatologie vétérinaire des animaux, j'en serais bien incapable. Mais vous voyez, je vous donne un exemple ici, vous aviez un poulailler où le soir tous les poulets allaient bien, le lendemain matin on vient voir ces poulets, ils sont tous morts. Quand vous, toute votre vie est consacrée à l'élevage de poulets, de milliers, voire de centaines de milliers de poulets, parce que c'est des gros trucs, et que vous retrouvez complètement ruiné le lendemain à cause d'un virus, c'est un petit peu embêtant. Une chose très importante aussi à noter, je vous ai dit que c'était essentiellement les oiseaux qui étaient infectés par ce type de virus, mais il y a un animal qui est épouvantable qui s'appelle le porc. Le porc a la capacité, c'est le seul animal à la surface de la Terre, a la capacité à la fois de faire des grippes avec des virus humains, c'est-à-dire si j'ai la grippe et que j'ai un porc à la maison, je peux le contaminer, mais également il peut faire une grippe à partir du virus d'un oiseau. Donc retenez ça, parce que c'est au niveau du porc généralement que ces différents virus vont se rencontrer, se mixer, mélanger leur matière génétique, et qu'il va y avoir apparition d'un nouveau virus, qui sera responsable de ce qu'on appelait tout à l'heure les pandémies. Bon, je vous ai dit que ça coûtait très cher, je vous ai mis quelques exemples là, par exemple, les dernières, on en a chaque année. En Italie, il y avait un certain virus H7N7, vous voyez, 12 millions de poulets sont morts, ça coûte 200 millions d'euros. Bon, ça a un coût économique, mais l'atteinte humaine n'est pas décrite. Ça, c'était valable jusqu'en 1999 et surtout 2003. En 2003, il y a un nouveau virus qui est apparu à la surface de la Terre, qui s'appelle le H5N1, dont on vous a encore parlé la semaine dernière, si vous avez écouté un peu les informations avec ce qui se fabrique aux Pays-Bas. Et c'est un virus qui était responsable de ce qu'on appelle une panzoocie, c'est-à-dire une atteinte à la surface de la Terre, touchant les animaux. Contrairement aux autres virus aviaires, ce virus, malheureusement, il est circonscrit à un endroit, à une ville, à un pays, s'est étendu dans un certain nombre de pays, y compris en France. On a eu des épidémies avec des atteintes d'oiseaux en 2005 ou 2006 dans le nord-est de la France. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est en 2011, on a à peu près 70 pays où des cas d'infection avec ce virus ont été rapportés chez des oiseaux, chez des poulets, ce qui est tout à fait inhabituel. C'est inhabituel également parce que depuis 2003, ça continue à évoluer. On n'a pas réussi pour l'instant à éradiquer cette infection. Et surtout, ce qui est très ennuyeux, c'est que pour la première fois, en gros, depuis qu'on parle de ces virus aviaires, donc des poulets, des oiseaux, il y a eu un certain nombre de cas d'atteinte humaine rapportés. Cas d'atteinte humaine rapportés, vous voyez, au 29 novembre 2011, vous me direz, c'est pas beaucoup. Il y a eu 510 personnes qui ont été infectées avec une mortalité à 60%. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez ce virus, vous avez 60% de chance, je ne sais pas si c'est une chance, de mourir. Alors généralement, ce sont des sujets jeunes qui meurent, de 15-20 ans, parce qu'ils sont en contact avec les élevages de poulets infectés, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est, comme en Indonésie ou le Vietnam. Mais non loin de chez nous, en Égypte, à moins de 4 heures quand même d'avion, vous avez une épidémie qui perdure depuis 2003. Et tous les derniers cas rapportés sont rapportés en Égypte. Vous voyez qu'il y a quand même, c'est 30% de mortalité, 153 cas, 53 décès. C'est un virus pour lequel il y a eu énormément de recherches faites dans les années 2003 et qui nous faisait craindre l'apparition d'une épidémie si ce virus s'adaptait réellement à l'homme, ou un peu mieux à l'homme en tout cas, avec cette crainte de l'épidémie, de la pandémie de 2009. En 2009, on vous a tous parlé donc de cette pandémie qui arrivait en se disant « Oh là là, on va avoir des millions de morts à la surface de la Terre », parce qu'on avait tout axé sur les analyses statistiques sur ce virus. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, c'est un virus qui continue à circuler à la surface de la Terre et qui, moi, m'inquiète un petit peu, parce que c'est un virus, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, parce que c'est un virus qui, certes, s'est adapté un petit peu à l'homme, mais c'est pas encore ça. Mais le jour où il va suffisamment muter, il va suffisamment pouvoir s'humaniser, je pense que nous aurons une grande pandémie à la surface de la Terre avec des centaines de milliers de morts. Avec ce virus en tout cas. Et c'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, on nous parlait en Hollande. Il y a eu un certain nombre d'études sur ce type de virus. Ils ont réussi à transformer le virus connu de H5N1 en un virus un peu plus humanisé, c'est-à-dire transmissible d'homme à homme. Pour l'instant, ce virus tel qu'on le connaît dans la nature ne se transmet pas d'homme à homme. Ce sont juste des oiseaux qui ont transmis ce virus de l'animal à l'homme. Le jour où vous aurez une adaptation réellement à l'homme avec cette transmission interhumaine, je pense que nous aurons des soucis à nous faire. Et c'est exactement sur ce schéma qu'on peut voir ce type de transmission. Comment on aboutit, donc le troisième type de virus, comment on aboutit à une pandémie ? Je vous dis qu'il y a plein de façons d'aboutir à une pandémie. Le plus souvent, on s'est aperçu que les pandémies du siècle dernier, dont je voulais vous donner des exemples, étaient issues de virus d'origine animale qui s'étaient humanisés secondairement. D'où la crainte d'une humanisation encore plus importante du H5N1. Ces oiseaux sauvages transmettaient du virus à des oiseaux plus domestiques comme du poulet. Soit vous pouvez avoir une transmission, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois du virus du poulet et de façon concomitante avec un virus humain. Vous allez avoir une modification, un mix de ces virus et du matériel génétique avec l'obtention d'un virus qui va s'humaniser, qui pourra être retransmis du porc à l'homme. C'est une façon de s'infecter. Il y a également, en 1918-1919, vous avez eu des modifications d'un virus du poulet qui s'est humanisé directement et qui a été responsable de cette grande pandémie. Et puis, bon, le cas est plus rare. Donc, si vous avez apparition d'une nouvelle espèce de virus pour lequel l'homme n'a aucune immunité, c'est-à-dire un virus qui n'a jamais été rencontré par l'homme jusqu'à présent, ce virus, bien évidemment, vous n'aurez pas de vaccin, hein, ça c'est clair, il n'y a pas de vaccin, donc vous n'avez pas de protection immunitaire suffisante pour pouvoir vous protéger contre ces virus. Et si ce virus, vous arrivez à le transmettre de façon interhumaine, vous aurez ce qu'on appelle une pandémie, c'est-à-dire ces grandes épidémies à la surface de la Terre. Et c'est juste ces trois exemples au siècle dernier, notamment la grippe espagnole dont je vous ai parlé, hein, c'était du H1N1, c'est-à-dire le virus qui donne les petites épidémies annuelles qui est apparu pour la première fois en 1918, virus que l'on a réussi à reconstituer sur le plan génétique en 2006, donc vous voyez quasiment un siècle après. 30 à 50 millions de décès. Énorme. La grippe asiatique, c'était 1 million, et la grippe de Hong Kong, il y en avait aussi également un peu moins d'un million il y a une trentaine d'années. On s'attendait donc à ce qu'il y ait une pandémie d'un nouveau virus en 2009. Vous voyez qu'en gros, ça survient tous les 30 à 40 ans d'assez pandémie. Donc on l'a eu, c'était pas un virus très méchant, mais on s'attend à ce qu'il y ait incessamment sous peu. Alors incessamment sous peu, en maladie infectieuse, c'est demain ou c'est dans 20 ou 30 ans, une nouvelle pandémie avec un nouveau virus que l'on ne connaît pas à la surface de la Terre. Si il y a des chercheurs en mathématiques qui sont très très forts en statistique aussi, qui s'amusent toujours à faire des modélisations, c'est-à-dire à partir de calculs de ce que l'on connaît sur ce qui est le passé, sur ce qui s'est passé en infectiologie et sur ce que l'on imagine aujourd'hui, on calcule le nombre de personnes qui pourraient avoir telle ou telle infection dans un futur proche. Alors on peut toujours se planter, bien évidemment. Et si, avec la modélisation du virus méchant dont je vous ai parlé, le H1N1, là, qui est responsable de 60% de mortalité, s'il arrivait aujourd'hui, on pense que 35% de la population française risquerait d'avoir cette infection, ce qui fait à peu près 21 millions de personnes. Il y aurait entre 700 à 1 500 000 personnes à hospitaliser. Ça fait beaucoup, beaucoup de lits à occuper dans les hôpitaux français. On a toujours des infarctus, toujours des accidents de la route, toujours des méningites. Il faut trouver de la place pour ces sujets. Et puis, vous voyez qu'il y aurait entre 130 à 300 000 décès en France. C'est-à-dire qu'on serait largement au-dessus des 4000 à 6000 décès rapportés annuellement avec les virus saisonniers. Donc on a eu en 2009, heureusement, un H1N1 qui a été un nouveau variant, qui est différent de celui de 1918, qui a été beaucoup plus gentil que ce que l'on avait prévu avec le H5N1. Heureusement, mais c'est, je vous rappelle qu'à l'époque, on y a eu un certain nombre de polémiques. La plupart des plans, le plan français de lutte contre la pandémie grippale étant assez calqué sur ce qu'on connaissait sur le H5N1. Donc c'est pour ça la raison pour laquelle il y a eu un certain nombre de vaccins commandés, un peu plus que prévu, etc., etc., qu'on en a beaucoup parlé. Mais je crois qu'il est important d'informer la population peut-être un peu trop sur ce genre de sujet que de ne pas tout lui raconter. Donc le H1N1 de 2009, c'était une association à la fois d'un virus de cochon, d'humains et d'oiseaux que l'on connaissait. On connaissait le matériel génétique de ces différents virus. Ils ont mélangé leur matière génétique. Hein. Le virus, il a 9 segments d'ARN. Donc il suffit de mélanger tout ça, on prend un petit peu à droite à gauche, que ce soit un virus qui soit capable de se multiplier chez l'homme, et vous aboutissez à ce nouveau virus, qui heureusement n'a pas donné autant de cas que l'on s'attendait. Vous voyez qu'en 2010, à la fin de l'épidémie, avec ce nouveau virus, il n'y a pas eu nos 300 000 décès, mais il n'y avait eu que 310 décès. C'est-à-dire un peu moins que finalement une épidémie saisonnière. On avait commandé 94 millions de doses de vaccins, je crois qu'il y a 5 millions de personnes qui ont été vaccinées. Dans les hôpitaux, on a vacciné un peu tout le monde, ce qui est normal. Dans mon service, on a eu 3 ou 4 personnes qui ont eu ce virus, qui en sont malheureusement décédées, dont une femme enceinte. Donc est-ce qu'un jour il y aura une nouvelle pandémie avec un virus grippal? La réponse est oui. Ça sera un virus probablement aviaire. J'espère que ce ne sera pas le H5N1 tel qu'on le connaît aujourd'hui. La seule question, c'est quand. Le VIH, un autre grand virus que vous connaissez très bien, au moins pour entendre parler. Vous savez que c'est un virus qui est probablement est connu, existe à la surface de la Terre depuis des siècles. Les premiers virus, lorsqu'on recherchait des virus, notamment dans les pays d'Afrique centrale, en République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'ex-Zaïre, on a retrouvé des traces de ce virus. C'était probablement un virus présent chez les singes, qui ont été transmis secondairement à l'homme par différentes façons. C'est un virus qui, vous êtes jeune, mais nous qui sommes un tout petit peu plus vieux que vous, on a vécu cette période en 83 où, quand on avait 2 ou 3 ans, on en parlait beaucoup, peut-être un peu plus, du VIH. C'était un nouveau virus qu'on découvrait. Il y avait des homosexuels à l'ouest des États-Unis qui mouraient tous d'une étrange maladie. Donc c'était au début la maladie des homosexuels. Après, on s'est aperçu qu'il y avait des gens de Haïti. Donc c'était des Haïtiens, forcément. Et puis après, ça a été des héroïnomanes. Donc c'était la maladie des 3 H, homosexuels, Haïti et héroïnomanes, qui présentaient cette pathologie. Jusqu'à ce qu'on soit aperçu par la suite que c'est une maladie, certes, qui se transmettait sur le plan sexuel, sur le plan de la seringue, etc. Mais également, on a retrouvé ça chez les hémophiles, on a retrouvé ça après, et aujourd'hui, un des principaux modes de contamination, c'est les relations hétérosexuelles. Donc, découverte en 83, c'est hier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes né largement après 83, mais pour nous, c'est vraiment hier. Et entre 83 et aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu cette infection qui a été dramatique à la surface de la Terre, parce qu'il y a eu à peu près 20 ou 25 millions de décès pour l'instant, a permis de faire avancer énormément la recherche en virologie. À la fois, bien sûr, pour le VIH, mais le VIH favorisant d'autres infections avec d'autres virus, on a pu développer des outils que vous connaissez probablement bien, comme les cultures virales, les PCR, les sérologies, je pense qu'on vous a appris tout ça pour certains d'entre vous, grâce ou à cause, on va dire, de cette infection par le VIH. Bon, il y a 2 types de virus, il y en a un qui est un peu plus agressif que l'autre, c'est le VIH1. Les premiers traitements, vous voyez que ça a été que 5 ans après, c'était de l'azathioprine qui est un dérivé de sperme de saumon que l'on utilise encore aujourd'hui, qui est un excellent médicament qui marche très bien sur le virus du VIH. 92-96, on est arrivé surtout à un changement radical de la prise en charge des patients. Je peux vous assurer que jusqu'en 95-96, quand j'étais interne ou jeune chef, quand on rentrait dans son service le matin, on avait généralement 2 ou 3 patients de 20-25 ans qui étaient morts dans la nuit de l'infection par le sida le lendemain matin. C'était une catastrophe. Avec l'arrivée des trithérapies, ça a complètement révolutionné la prise en charge de ces patients et leur survie. Aujourd'hui, avoir le VIH, ce n'est pas simple, c'est difficile de vivre avec, mais c'est peut-être avoir une pathologie chronique comme une autre. Le VIH, il y a des très bons traitements, on vit normalement, on aime normalement, on mange normalement, on va travailler normalement, et je pense que la survie d'un patient VIH jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui dans des pays comme la France, des pays où on a accès facilement aux soins et aux traitements, est identique à une autre personne qui ne serait pas infectée par le virus. Je pense qu'il est probablement plus compliqué d'avoir 2, 3, 4, 5 injections par jour d'insuline quand vous êtes diabétique que de prendre un comprimé par jour pour son VIH aujourd'hui. Sous réserve, bien évidemment, vous preniez parfaitement votre traitement. 2008, en France, on a eu un prix Nobel, bien évidemment, sur ce, grâce à la découverte de ce virus qui avait été découvert donc dans les années 81 par les Français de l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, il y a à peu près 35-36 millions de personnes qui vivent encore sur la surface de la Terre avec le virus du sida et 20-25 millions qui en sont décédés, essentiellement, bien évidemment, dans les pays un peu plus pauvres que celui où nous vivons, c'est-à-dire en Afrique ou en Asie. En France, vous avez à peu près 100 à 150 000 personnes qui vivent avec ce virus actuellement, qui ont accès aux soins, qui sont le plus souvent traités. Il y a bien sûr des règles pour traiter ces patients. Et alors que je vous parlais tout à l'heure de mon internat dans les années 90, où on avait une quantité, une foultitude de décès au quotidien, aujourd'hui, vous voyez qu'en 2008, il y a eu moins de 400 personnes sont mortes du sida en France. C'est moins que... C'est toujours trop, bien évidemment, mais c'est moins que l'accident de la route, pour vous donner un exemple. Avec néanmoins, et c'est toujours valable en 2011, on n'a pas les valeurs, mais au moins en 2010, 6500 à 7000 personnes qui sont découvertes comme étant infectées par le VIH chaque année en France. Le retour des vacances au mois de septembre est une période assez faste pour découvrir ce type d'infection chez les jeunes qui se sont laissés un petit peu aller l'été sans préservatif. Bon, les modes de transmission sexuelle aujourd'hui, c'est le principal mode de transmission, hein, hétéro ou homosexuel. Tout ce qui est transmission sanguine a franchement diminué en France, chez les hémophiles, chez les transfusions sanguines, etc. Ça disparaît. Les professionnels de santé sont largement exposés, bien évidemment, mais on a des traitements pour ça, pour s'infecter. Hein, le nombre de personnes, de chirurgiens qui se piquent tout au quotidien avec des aiguilles, avec des seringues de patients infectés, c'est très fréquent. La transmission de la maman à l'enfant, ça se fait soit in utero, c'est-à-dire le bébé est dans le ventre de la maman avant l'accouchement, et le plus souvent c'est au moment de l'accouchement. Il y a une transmission du sang de la maman infectée au bébé, vous avez un risque de contaminer ce bébé. Bien évidemment, l'allaitement est contre-indiqué parce que là aussi on peut contaminer le bébé comme ça. Bon, je vous passe le virus. C'est un virus un peu particulier qui il est difficile à trouver parce qu'il a un mode de réplication qui est beaucoup plus compliqué que les autres virus. Mais en étant beaucoup plus compliqué, c'est un mauvais virus. C'est-à-dire qu'il se plante à chaque fois pour se répliquer correctement. Et lorsque vous faites infecter par un virus, lorsque vous n'avez pas de traitement, vous n'êtes pas infecté par un virus, mais par des milliards et des milliards de virus légèrement différents. Alors certes, les traitements arrivent à faire disparaître ou à empêcher ces virus de se répliquer, mais le fait d'avoir ces milliards et milliards de virus différents liés aux erreurs de réplication vous explique le fait qu'il soit difficile aujourd'hui d'avoir un vaccin qui soit envisageable chez ces patients. D'autres virus plus exotiques que vous ne connaissez pas, probablement, les virus des fièvres hémorragiques, ce sont des virus qui tuent des centaines de milliers de gens à la surface de la Terre. Il y a un virus dont je ne vous parlerai pas, qui est le virus de la dengue, par exemple, qui est un virus qui infecte en gros 150 000 à 200 000 personnes chaque année à la surface de la Terre. C'est énorme. Voire même plus, c'est des virus assez fréquents et que l'on voit dans le cadre des pathologies de retour de voyage. Un virus assez récent, c'est, pour vous donner un petit exemple, c'est le virus de Marburg, qui est un virus qui avait été importé dans les années 70 grâce à des singes qui avaient été importés de République démocratique du Congo directement dans cette ville de l'ex-Allemagne de l'Est qui était à Marburg. Et pour cultiver certains virus, on a besoin de temps en temps de cellules. Je pense que vous avez étudié tout ça, mais ce n'est pas facile de cultiver un virus, il faut toujours des cellules. Donc. Et il y a certains virus qui se cultivent uniquement à partir de cellules de rein de singes, ce qui était le cas en tout cas dans les années 70. Ces singes avaient été importés à Marburg avec un nouveau virus qui a contaminé un certain nombre de laborantins. Et vous voyez qu'il y a eu 7 personnes qui en sont décédées. Ce sont des virus aujourd'hui qui donnent des petites épidémies, mais qui ne sont pas bien graves. Un autre virus beaucoup plus intéressant, c'est celui de ses cousins, c'est Ebola. C'est un virus qui donne aussi des hémorragies digestives, entre autres. dont on a beaucoup parlé dans les années 80, et dont on, finalement, vous voyez, on a découvert son origine et son réservoir qu'il y a quelques années. C'est un virus qui finalement n'a pas entraîné beaucoup de décès. Il n'y a eu que 1700 décès, mais sur 2500 cas, c'est toujours pas mal. Ça se retrouve généralement dans des zones assez recluses de la République démocratique du Congo ou de la Côte d'Ivoire, mais où personne ne va passer ses vacances, je vous rassure. Et ce qui est amusant, c'est que c'est un virus, au début, on savait qu'il y avait une transmission interhumaine importante, parce qu'on avait la diarrhée sanglante, les gens se contaminaient par voie aérosolisée, c'était facile de se contaminer. Et on s'est aperçu, en remontant l'histoire, que ce virus était porté par des grands singes en Afrique, des grands singes qui mouraient de ce virus. Donc les jeunes guerriers africains allaient dans les années 80, au lieu de se combattre un singe de 300 kilos, ils récupéraient le singe qui était tombé de son arbre, c'était beaucoup plus simple. Ils écarissaient le singe, c'est-à-dire qu'ils retiraient la peau, etc. Et puis ils rentraient au village en disant, vous avez vu, j'ai tué le singe de 300 kilos. Sauf que quand vous découpez un singe, généralement, c'est comme un boucher, vous coupez forcément les petites plaies sur les mains, etc. Et se contaminaient par ce virus. Ils présentaient des signes hémorragiques, ils contaminaient les gens de leur village et le village était des signes. Mais on ne savait pas d'où venait ce virus et on le sait depuis 2-3 ans. C'est les chauves-souris, tout vient des chauves-souris. Les chauves-souris sont infectées, sont porteuses du virus. Et lorsque ces chauves-souris accouchent, elles se pendent au niveau de l'arbre. Il y a le placenta qui tombe, infecté, et les grands singes se précipitent pour manger un 4 heures un peu chaud et se contaminaient comme ça. Donc ils s'infectent et ils contaminaient après l'eau. Bon. On va avancer un petit peu. Le SRAS, on vous a beaucoup parlé de ce virus en 2003. C'est un nouveau virus qui est apparu à la surface de la Terre. Et ce qui est très intéressant d'un point de vue virologie, là également c'est un virus qui a entraîné une symptomatologie respiratoire avec un certain nombre de décès. 10% des gens en tout cas infectés décédaient de ce virus. Je pense que vous avez tous entendu parler. Pendant des mois, on entendait parler aux informations quotidiennement. Avec une répercussion économique importante, puisque ce sont essentiellement les pays d'Asie du Sud-Est qui ont apporté des cas avec ce nouveau virus. Donc bien évidemment, les gens n'allaient plus en voyage, en vacances, en Indonésie, au Vietnam ou en Thaïlande. On a beaucoup parlé, ça a été très court en termes de période d'infection, avec, vous voyez, il y a eu quand même 30 pays où des cas ont été rapportés, avec près de 8000 cas rapportés à la surface de la Terre, et 10%. L'origine de ce virus. Le virus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se multiplie dans les cellules. Et bien, l'origine, aujourd'hui, on sait très bien que c'est également la chauve-souris qui véhiculait ce virus, qui a transmis du virus à l'homme. Et l'homme, ayant pu s'adapter à l'homme, il a pu se contaminer facilement et transmettre ce virus par voie aérienne, avec des contacts un peu plus étroits que d'autres virus. Et avec cette épidémie, finalement, qui a tenu en haleine tous les journaux pendant des mois et des mois. Facteur de risque pour être infecté à l'époque, c'était travailler dans un hôpital et recevoir des patients infectés. C'était très bien jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'en finalement en mettant des gants et en mettant des masques, on risquait plus de se faire infecter par les patients. Ce sont malheureusement des problèmes qui sont récurrents. Ça, c'est un virus. Pourquoi je vous ai parlé de ce virus? Parce que c'est de toute l'histoire de la virologie. C'est un virus qui a été découvert. C'est un coronavirus. C'est un virus qui est généralement trouvé chez les animaux. C'est un virus qui a été découvert en moins de 12 semaines par un ensemble de laboratoires. Il y a un certain nombre de laboratoires à la surface de la Terre qui ont uni leurs travaux et leurs efforts pour pouvoir mettre en évidence ce virus, le découper, connaître son matériel génétique, en tout cas son génome dans sa totalité en 12 semaines, retrouver les différents moyens pour en faire le diagnostic. Et ça, dans toute l'histoire de la virologie, c'est la première fois que l'on ait droit à ce type d'information qui est d'un point de vue technologie et résultat assez extraordinaire. Bon, je vais vous passer certains autres virus. Un virus qui n'existait pas, juste un petit mot, aux États-Unis en 1999, qui actuellement a envahi les États-Unis. C'est un virus qui s'appelle le West Nile virus, qui est généralement connu dans la vallée du Nil, bien évidemment, et qui de temps en temps a été rapporté en Israël ou dans certains pays européens. C'est un virus qui normalement passe du moustique à l'oiseau. Il y a une espèce de cercle entre ces deux animaux. L'oiseau véhicule les réservoirs de ce virus, le repasse bien sûr au moustique qui vient ponctionner son sang, et ce n'est que très rarement qu'il y a une transmission par piqûre de moustique à l'homme. Il y a quelques cas rapportés en France, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1999, il n'y avait jamais eu aucun cas rapporté aux États-Unis. Et puis, vous avez des oiseaux qui sont partis du nord de l'Égypte et surtout d'Israël. Et des oiseaux passent au-dessus de la Camargue, au-dessus vont vers les îles anglo-saxonnes et traversent après complètement l'Atlantique pour aller jusqu'aux États-Unis. Et ces oiseaux ont véhiculé ce virus en arrivant directement à New York. Alors c'est comme, pourquoi c'est New York, c'est comme ça. Et il y a eu les quelques premiers cas rapportés, 67 cas en octobre 1999 à New York. Et depuis, c'était juste là, depuis ce virus a complètement envahi l'ensemble des États-Unis, le Canada, toutes les îles des Caraïbes, mais également le Mexique. Et c'est une histoire assez intéressante en termes d'atteinte virologique, sachant qu'un certain nombre de décès peuvent être rapportés. Vous voyez, ça c'est le nombre de patients atteints en 2010, il y avait 30 000 cas aux États-Unis, avec quand même 4% de décès. Alors, on va terminer sur deux autres virus que vous connaissez probablement, c'est le chikungunya, on vous en a beaucoup parlé en 2005, c'est un virus qui a été largement connu en Afrique du Sud pour être localisé, et c'est un virus qui a été introduit à l'île de la Réunion par différentes personnes africaines qui ont quitté l'Afrique pour aller avec des moustiques vers les Comores, puis vers la Réunion, l'île Maurice, Madagascar. Et ils ont importé ces virus. Et vous voyez qu'il y a eu une épidémie avec ce virus où les gens apportaient vraiment des douleurs musculaires, articulaires très très importantes. Vous voyez qu'il y a eu près d'un tiers de la population à la Réunion, hein, c'est un peu moins d'un million d'habitants, et de près de 260 000 personnes infectées avec ce virus. Sachant qu'au bout d'une année, certaines personnes ont encore des douleurs articulaires très importantes, vous imaginez que ce sont des virus qui ne sont pas anodins, malheureusement. Et le virus tournant, actuellement on a des milliers, pour ne pas dire des millions de cas qui ont été rapportés en Inde. Il a quitté l'île Maurice et la Réunion pour aller vers l'Inde, avec actuellement des cas rapportés au niveau des Philippines, au niveau de l'Indonésie. Donc je pense que d'ici quelques années, ça va revenir en France, voire dans le bas, dans la région de Nice ou Monaco, sachant qu'il y a eu des cas qui ont été rapportés en 2007 en Italie. Et vous voyez, c'est ce moustique-là, c'est un Aedes albopictus, qui véhicule ce type de virus. Le fait qu'il y ait un réchauffement climatique à la surface de la Terre, je ne suis pas un spécialiste sur le sujet, mais va certainement favoriser l'éclosion d'un certain nombre de virus connus ou non connus, qu'on va voir réapparaître, qui vont redevenir émergents au moins en France. Et on pense que, par exemple, le virus de la dengue, qui sévit plutôt dans les pays des Sud-Est en Afrique, risque de réapparaître dans les années à venir dans nos pays. Tout ça parce que vous avez une élévation progressive de la température. Donc forcément, des réservoirs, des moustiques, des rongeurs, etc., qui peuvent vivre et survivre aux températures un peu plus clémentes qu'on a actuellement et qui leur permettent de véhiculer ces différents virus. Et je vais juste terminer sur la grande victoire finalement de l'homme, ce qui concerne la variole. La variole, mais quand on a une victoire, on peut malheureusement avoir l'opposé. Et pour parler d'opposé, je vous parlais de terrorisme et de bioterrorisme, qui est un de mes grands dadas. Le bioterrorisme, ça consiste à utiliser un agent infectieux dont l'objectif a pour but de tuer ou de blesser des hommes, des animaux ou des plantes. On peut utiliser n'importe quel agent infectieux, que ce soit des bactéries, des virus, des parasites, tout ce que vous voulez. Et notamment, il y en a un qui s'appelle la variole. Mais juste d'un point de vue historique, je veux simplement vous rappeler que le premier acte de bioterrorisme, c'est-à-dire l'utilisation intentionnelle d'un agent infectieux pour détruire ou pour tuer des hommes, ça remonte quand même au XIVe siècle, puisque dans la région de Kaffa étant en Crimée, c'était une ville qui était détenue par des Génois donc des Italiens, qui fabriquaient la soierie dans cette région. Et pour être délogé de Kaffa, il y avait le peuple qui entourait cette ville, qui s'appelait les Tatars, qui ont balancé au-delà des remparts de cette ville des patients, pas des patients, c'est des soldats à l'époque, je suis désolé, qui étaient décédés d'une maladie bactérienne qui s'appelle la peste. Donc en envoyant ces corps de l'autre côté, il y a forcément des rats, des puces, etc. qui se baladaient par là. Les Génois ont fui à travers toute l'Europe, fuyant cette ville avec leur soierie sous les bras. Et grâce à ce tact du bioterrorisme, vous avez eu près de 20 à 30 millions de gens qui sont décédés en Europe et à peu près autant en Asie. C'est ce qu'on a appelé la peste noire ou la seconde grande peste dont vous avez probablement entendu parler avec la peste à Marseille en 1346. Bon. Et un des agents, parmi l'ensemble des agents qui seraient utilisables aujourd'hui, il y en a un qui s'appelle la variole. Vous allez me dire, le virus de la variole a complètement disparu, et vous avez raison, parce que historiquement, c'est un virus qui existait depuis très 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 longtemps. Vous voyez que rien qu'au siècle dernier, il y a eu quand même 300 millions de morts à la surface de la Terre, et grâce aux campagnes de vaccination de l'OMS dans les années 67-70, on avait des vaccins, il y a eu une éradication de cette maladie strictement humaine à la surface de la Terre. C'est la raison pour laquelle, dans les années 80, la vaccination obligatoire a été stoppée. On vaccinait à la naissance à 11 ans ou à 21 ans, enfin service militaire, et un peu plus tard pour ceux qui voulaient retourner à l'hôpital. Donc on a arrêté la vaccination. C'est une maladie qui n'existe plus. Et puis, comme cette maladie n'existe plus, on a dit, on a des stocks de virus quand même dans certains laboratoires à la surface de la Terre, autant les mettre dans un seul et même lieu. Et on a stocké ces virus dans deux laboratoires plus exactement, un aux États-Unis qui est à Atlanta, et un autre à Novosibirsk qui est en ex-URSS. Et lorsqu'il y a eu une chute des frontières en ex-URSS, un peu après la chute du mur de Berlin, il y a un flux de 600 litres. De virus qui a disparu. Alors on ne sait pas où il est. Donc vous imaginez que si aujourd'hui ce virus était à nouveau répandu à la surface de la Terre, toutes les personnes nées après 79 en France en tout cas n'ont pas été vaccinées. Donc certes on a des vaccins, on pourrait les utiliser, mais le virus peut être utilisé comme arme biologique aujourd'hui, ce qui serait une catastrophe. Voilà, je vous remercie de votre attention. Une heure, j'ai un peu trop parlé, je suis désolé. J'attends vos questions. Merci.